Marivaux, Bel Esprit du XVIIIe siècle, par Jean Bernard. Le grand reproche qu'on a souvent adressé à Marivaux, c'est d'avoir couru après l'esprit. Qu'importe s'il l'attrape. Il y a tant de gens qui en font autant et qui ne l'atteignent jamais. Grimm, qui n'aimait guère Marivaux, nous a conservé ce mot de Madame Geoffrin. Madame Geoffrin, dit Grimm, prétend que les hommes sont en composés de plusieurs petits pots. Qu'il y a le petit pot d'esprit, le petit pot d'imagination, le petit pot de raison et la grande marmite de bêtise. Le destin prend de chacun de ces pots ce qui lui plaît, et en compose un ensemble qui forme la tête d'un homme. Et Grimm ajoute, en prenant au sérieux cette comparaison un peu maniérée, on peut dire que le destin a largement usé du petit pot d'esprit en faveur de Marivaux, au bénéfice duquel il a prodigué la précieuse drogue. Par ces deux citations, vous voyez tout de suite dans quel milieu intellectuel vécut Marivaux. Quand on lui reproche ses exagérations de style, on fait surtout le procès de la façon de s'exprimer de ses contemporains. Il est de fait qu'aujourd'hui, où avec raison nous aimons la simplicité, Madame Geoffrin, avec ses petits pots et sa large marmite, n'obtiendrait pas beaucoup de succès. C'était pourtant une des femmes de grand esprit de son temps, et qui ne fut pas sans influence sur le mouvement littéraire de son époque. Rappelons en passant que Madame Geoffrin, qui fut l'amie de Poniatowski, plus tard roi de Pologne, avait autant d'esprit que de cœur. Elle avait pris pour devise « aimer et pardonner ». Quand les philosophes voulurent créer l'encyclopédie, il fallut 100 000 francs pour commencer. C'est elle qui les donna. Marivaux fut un des familiers de son salon, où se réunissaient les hommes les plus célèbres de Paris. C'était un Parisien, il était né le 4 février 1688 sur la paroisse de Saint-Gervais. Son père, peu après la naissance de son fils, fut nommé directeur de la monnaie de Rion, puis passa à Limoges. Le jeune Marivaux fit son droit. Il aurait pu être avocat, mais dédaigna de plaider. La procédure lui répugnait. Riche d'abord, il se mit à écrire pour son agrément. Ce fut ce que nous appelons un amateur. Une aventure de jeunesse eut une grosse influence sur son talent. Il aimait une fille belle et sage. Mais écoutons-le raconter lui-même cette petite aventure. « Jamais, dit-il, je ne me séparais d'elle, que ma tendre surprise n'augmentait de voir tant de grâce dans un objet qui ne s'en estimait pas davantage. Était-elle assise ou debout, parlait-elle ou marchait-elle, il me semblait toujours qu'elle n'y entendait point finesse, et qu'elle ne songeait rien moins qu'à paraître ce qu'elle était. » Ce qui le charmait, c'était sa simplicité et son manque de coquetterie. Un jour, à la campagne, il la quitte, ravi, lorsque, ayant oublié ses gants, il revient et que voit-il ? La jeune fille, si simple, si ingénue, si sincère, le miroir à la main, répétant pour elle ses naïvetés du lendemain. Elle s'y représentait à elle-même dans tous les sens où, durant notre entretien, j'avais vu son visage, et il se trouvait que ses airs de physionomie, que j'avais cru si naïf, n'étaient à les bien nommer que des tours de gypsière. Je jugeais de loin que sa naïveté en adoptait quelques-uns, qu'elle en reformait d'autres. C'était de petites façons qu'on aurait pu noter et qu'une femme aurait pu apprendre comme un air de musique. Marivaux s'éloigna et ne revint plus. Ce fut là, peut-être, le point de départ de ses incessantes observations sur le caractère des femmes. Dans ses comédies, ses amoureux, avant de s'engager, veulent étudier celle qu'ils aiment. Dans la comédie du jeu de l'amour et du hasard, nous retrouvons cette préoccupation endorante. Quoi qu'il en soit, Marivaux a 25 ans, est jeune, riche, bien de sa personne, et arrive à Paris, où les salons sont divisés en deux camps littéraires. Les uns tenant pour les anciens, les autres pour les modernes. Le voilà fréquentant chez Madame Geoffrin, chez la marquise de Lambert, chez Madame de Tencin, la sœur du célèbre cardinal qu'il fréquenta. C'est dans ce salon que Marivaux s'habitue à cette préciosité de style dont nous parlions tout à l'heure. Marivaux ne devait pas altérer son heureuse et honnête nature dans ce milieu peu fait pour encourager à la vertu. Cependant, chez Madame de Tencin, il reconnut l'eau ou l'as. Il spécula comme les autres. Sa fortune fut doublée en peu de temps et il fut ensuite ruiné. Ce fut l'année de ses malheurs, car en 1723, il perdit, au bout de 2 ans de mariage, sa femme qu'il aimait tendrement. Il la pleura sincèrement et la regretta toute sa vie. Il eut une fille unique, qu'il ne put doter et qui entra au couvent. Il fut parmi les ennemis de Voltaire, qui, tout grand homme qu'il fût, n'était pas toujours un confrère commode, et qui a défini Marivaux, fort injustement du reste. Un homme qui passe sa vie à peser des œufs de mouche dans des balances de toile d'araignée. Marivaux n'était pas un philosophe comme on l'entendait au XVIIIe siècle, et il tenait à ses idées religieuses. D'Alembert écrit à ce sujet « Marivaux, quoique très éloigné d'afficher de la dévotion, l'était encore plus de l'incrédulité. La religion, disait-il, est la ressource du malheureux, quelquefois même celle du philosophe. N'enlevons pas à la pauvre espèce humaine cette consolation. » Ce qui ne l'empêcha pas, dans ses romans, de tourner en ridicule les faux dévots et la perfidie des directeurs qui accaparent les héritages. Malgré l'insistance de ses amis, il refusa d'écrire contre Voltaire des libelles. Calibraire lui demandait, lui offrant une somme élevée. « Non, non, dit-il, les injures dites par un écrivain à un homme de lettres sont l'opprobre de celui qui les dit, la honte de celui qui les autorise, et souvent l'éloge de celui qui en est l'objet. » Quoique pauvre et n'ayant pas de cuisinier, il arriva à l'Académie française et il appelait cette nomination le seul événement de sa vie. Sur 22 votants, il obtint 22 voix. Il succédait à l'abbé Hauteville, dont le nom est aujourd'hui bien oublié. Avec la vieillesse, malgré sa célébrité, sa pauvreté ne fit qu'augmenter. Il se mit en ménage avec une vieille demoiselle de Saint-Jean. Réunissant leurs petits 30, ils vivaient chichement et d'une manière irréprochable. Après des jours difficiles, il mourut à 75 ans. C'était un brave homme. Son œuvre est considérable. Il laissa 30 comédies dont 11 furent représentées au Théâtre français. Il avait fait jouer une tragédie, Hannibal, sans aucun succès et publié quelques romans d'observation, comme La vie de Marianne et Le paysan parvenu. Il a décrit surtout des scènes populaires. La vie de Marianne se termine par une 9e partie, La religieuse, qui n'a rien d'irréligieux. C'est comme un cri de douleur en parlant des couvents qui enlèvent les enfants à l'affection des parents. C'était le moment où sa fille venait d'entrer au noviciat. Il exprimait, en termes modérés, sa profonde affliction. Cependant, il considérait le couvent comme un refuge dans certaines circonstances. Une jeune fille, qui se destinait au théâtre, vint le consulter sur le talent qu'elle se croyait. Elle allait partir pour la Pologne où elle était engagée. Marivaux l'écoute, puis, avec toutes sortes de ménagements, l'incite à renoncer à la scène, ne la trouvant pas jolie et ne lui reconnaissant pas de l'esprit. Deux qualités sans lesquelles une actrice ne saurait réussir. « Que puis-je donc faire ? » s'écria la pauvre comédienne. « Je suis orpheline et sans ressources. Entrez au couvent. Mais les frais de noviciat, qui les paiera ? Moi ?» Il les paya en effet. Et comme on s'étonnait de cette vocation religieuse provoquée par un auteur dramatique, « Que voulez-vous » dit-il. « Elle lui fait bâiller les Polonais avant de les faire rire. Mieux vaut que le bon Dieu l'ait prise. » C'est qu'il était foncièrement bon. Un jour, il montait en voiture avec Madame Lalemant de B. lorsqu'à la portière du carrosse se présente un mendiant, un jeune homme de 18 à 20 ans, gras, potelé, du teint le plus frais et le plus vermeil. Marivaux s'indigne. « N'as-tu pas honte, misérable, jeune comme tu l'es et te portant le mieux du monde, d'avoir la bassesse de mendier ton pain, que tu pourrais gagner par un travail honnête ?» Le mendiant, consterné, se gratte l'oreille et lui répond « Si vous saviez comme je suis paresseux. » Marivaux lui donna un écu. « Tiens, voilà pour ta franchise. » Quand on analyse son théâtre, on s'aperçoit que dans toutes ses pièces, c'est le triomphe de la femme. Il fut féministe avant la lettre, mais ce féministe réclame les droits de la femme et exige qu'elle remplisse ses devoirs, l'amour du mari et l'inviolabilité du lien conjugal. « Celle-là n'est pas digne d'exercer ses droits, » fait-il dire à un de ses personnages, qui n'est pas capable de remplir ses devoirs. Beaumarchais lui a emprunté un des morceaux les plus célèbres du théâtre, la déclaration de Figaro au premier acte du Barbier de Séville. Quand on étudie son œuvre à fond, on s'aperçoit que Marivaux a souvent été imité par Picard, De Vigny, Alfred de Musset, Octave Feuillet et Mela Kalevi, pour ne citer que les principaux. On a beaucoup reproché à Marivaux ses défauts de langage, et Marivaudage est devenu synonyme de mauvais goût. C'est ainsi qu'il appelle le silence l'abstinence des paroles. il écrit, parler familièrement, c'est parler au rez-de-chaussée. Manquer à son devoir, blesser son devoir. Un cœur sans amour, un cœur qui reste garçon. N'oublions pas que la plupart de ces pièces furent jouées par les acteurs italiens, dont quelques-uns parlaient à peine le français. Ces expressions forcées étaient plaisantes, baragouinées par des Vénitiens ou des Napolitains. Quoi qu'on en ait dit, c'est un des esprits les plus aimables du XVIIIe siècle. Jean Bernard.